je me souviens encore au début, on était à une vingtaine, puis je l'expliquais aux gens, vous savez, je recrutais soit des personnes que je voulais amener chez nous, des collaborateurs ou des clients. Puis on va être bientôt 500 et je voulais juste avoir leur réaction, puis de leur expliquer comment est-ce qu'on ferait ça.
Mon nom est Antoine Gagné et je vous souhaite la bienvenue au 109e épisode du podcast Hypercroissance. Avant d'écouter l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à vous abonner sur Spotify, Apple Podcasts ou sur votre plateforme de balado préférée afin d'être notifié des nouveaux épisodes qui arrivent tous les lundis matin. Également, l'épisode d'aujourd'hui est présenté et produit par J7 Media, une agence de publicité Facebook. En gérant plus de 30 millions de dollars de publicité Facebook à l'année, J7 Media aide depuis 9 ans maintenant les entreprises à accélérer leur croissance via l'entremise de la publicité Facebook et Instagram. Si vous désirez être au courant des meilleures pratiques dans l'industrie en ce qui concerne la pub Facebook, je vous invite à écouter le podcast Social Selling qui est mis en ligne tous les mercredis matin. L'équipe de J7 Media vous livre chaque semaine des études de cas réelles qui vont pouvoir vous aider à améliorer les performances de vos campagnes. J'ai l'immense honneur aujourd'hui de m'entretenir avec un entrepreneur qui, tenez-vous bien, dirige une organisation de plus de 1600 employés. Et le plus impressionnant dans tout ça, l'entreprise a été fondée il y a seulement 8 ans de cela. En effet, François Dillon, président et fondateur de Levio, est avec nous aujourd'hui pour nous parler d'hypercroissance au sens propre. Désireux de s'implanter comme un joueur redoutable de la transformation numérique, M. Dillon a pris le pari au début des années 2010 de se lancer à son propre compte et de devenir un des leaders canadiens en technologie et forcé d'admettre que les chiffres parlent d'eux-mêmes. En plus de cette prise de marché impressionnante, François nous explique aussi la culture intrapreneuriale qu'il a pu bâtir au cours des années chez Levio. Une discussion intéressante et ma foi tellement fascinante. Sans plus attendre, ma discussion avec François Dillon. François Dillon, vous êtes le président et fondateur de Levio, une entreprise en prestation de services qui aide les organisations à accélérer leur transformation numérique. Fondée à la fin 2013, Levio a connu une hypercroissance totale depuis sa fondation, en ayant maintenant plus de 1600 employés à son actif, répartis au Canada, au Maroc, ainsi qu'aux États-Unis. Monsieur Dillon, au nom de toute l'équipe du podcast Hypercroissance, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui.
Ça me fait un grand plaisir d'être là. Merci à vous de m'accueillir.
Et Monsieur Dillon, j'ai cru voir en faisant mes recherches qu'avant d'être sur le marché des affaires, vous avez été dans les forces armées canadiennes pendant près de 20 ans. Pouvez-vous nous parler un peu de cette expérience et nous dire à quel point ce passé vous a préparé pour votre carrière en affaires?
Ben absolument, vous avez fait des bonnes recherches. J'ai été effectivement dans les forces de réserve, donc oui, avant ma carrière en affaires, mais beaucoup en parallèle, hein, parce que vous le savez probablement, mais les forces de réserve au Canada, c'est des militaires qui exercent aussi leur métier civil. Donc moi, c'est arrivé en même temps que j'étais aux études. J'ai fait mes cours au cégep en administration, puis en même temps, ben, j'ai pris les cours d'officier d'infanterie. Donc oui, ça m'a préparé, ça a été une super expérience. Je dirais que les écoles de leadership pour nos jeunes du côté de défense nationale, c'est vraiment très bien. Donc, apprendre à travailler en équipe, à collaborer dans un groupe, à faire des appréciations, à concevoir des plans, structurer des plans, les communiquer, les exécuter. Puis dans les forces de réserve, ce qui est le fun, c'est qu'après avoir suivi tes cours avec les collègues de la régulière à Gagetown ou ailleurs, sur le dépendamment des métiers dans lesquels tu es, tu reviens après ça à ton unité en région. Moi, j'étais à Sherbrooke au début, donc j'étais au fusilier de Sherbrooke. Et là, tu apprends les rouages d'une organisation. Tu as toute l'opération de ce régiment-là avec toutes les fonctions, les rôles. Toi, ben, tu t'imbriques dans ça. Donc, un bel apprentissage. Puis je dirais que tout au long de ma carrière, du parallèle avec ma vie d'entrepreneur ou de personne en affaires, ça m'a apporté énormément. Donc, j'ai appris que j'ai appris en affaires que j'ai amené du côté militaire. C'est fantastique. C'était une belle période.
J'imagine que ça doit amener une belle discipline, hein. On doit être à nos affaires en affaires. On doit être, j'imagine, beaucoup à nos affaires également dans la réserve, là.
Ben, vous avez, on n'a pas le choix, hein. C'est la rigueur, l'exécution, être capable d'être, effectivement, je pense que la discipline est si on veut réussir, il faut s'en occuper.
Intéressant. Puis par la suite, on peut voir qu'au début des années 2000, vous avez intégré le secteur des technologies en travaillant pour une très grosse entreprise établie à l'époque. Et vous disiez d'ailleurs dans un entretien avec la presse en 2019 que vous aviez senti la quatrième transformation industrielle C'est pour cette raison que vous avez décidé de fonder Levio au détriment de continuer avec l'entreprise dans laquelle vous aviez œuvré pendant 14 ans. Est-ce possible pour vous de nous dire concrètement c'est quoi que vous définissiez comme la quatrième révolution industrielle?
Ben en fait, moi j'ai été pendant une longue période avec cette entreprise-là, très impliqué dans des projets qui impliquent à l'époque on appelait ça le e-commerce ou les échanges électroniques, des projets qui, un après l'autre, ont amené des révolutions, ont amené des changements importants auprès des clientèles. Puis c'était vraiment intéressant, puis je voyais que l'évolution était loin d'être finie. Tu sais, on regarde la maturité, on se place quand j'ai fondé Levio, fin 2013, début 2014, on regardait la maturité des technologies, elle était rendue où, l'adoption par les clientèles des mobiles, des tablettes, donc c'était vraiment beaucoup plus avancé que ça l'était dans le début des années 2000, les technologies beaucoup plus modernes, les réseaux de communication, donc juste à ce niveau-là, par exemple, on voyait déjà arriver les technologies 5G, on entendait parler donc des réseaux de communication à très fort volume, très très rapide, peu coûteux. Donc capacité après ça de stockage dans les clouds, on voyait apparaître déjà les IoT, donc évidemment la communication à grand volume, à faible coût, très rapidement. Donc là, capacité de stocker beaucoup d'informations, donc les IoT au cœur de ça, les algorithmes puissants derrière boutique pour dire OK, comment maintenant on peut davantage et plus pertinent auprès de nos clientèles. Donc moi, je me suis dit, c'est clair que ces capacités-là vont amener des nouveaux modèles d'affaires. C'est sûr que ça va permettre de faire évoluer ces modèles d'affaires-là. Et nos clients, dans différentes industries, je dirais même l'entreprise gouvernementale, n'a pas le choix que de se mettre en action et de faire évoluer sa façon de transiger avec ses clients. Donc à partir de là, je me suis dit, il y a tellement plus d'opportunités, la croissance de besoins dans ce domaine-là, d'équipes capables de faire arriver des programmes de transformation, mais ça va vraiment exploser au cours des prochaines années. On savait pas à ce moment-là que ça s'appellerait la 4.0 et tout ça, mais c'est ce que je voyais arriver à l'horizon au moment où j'ai fait le choix de fonder Levio.
Et parlons-en de ce choix-là, parce qu'on vous a offert la présidence là de cette entreprise-là, choix que vous avez refusé pour finalement fonder Levio. Est-ce que c'est une envie depuis tout jeune d'être en affaires? Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer à votre compte finalement?
En fait, je dirais que c'est pour moi, c'est se lancer en affaires, c'est une chose. Ce qui est important, c'est d'entreprendre. Donc, d'entreprendre, de bâtir. D'abord et avant tout, j'ai eu le privilège de travailler dans cette organisation-là, vous l'avez dit tantôt, pendant 14 ans. Donc, d'entreprendre, j'ai été en affaires pour moi j'ai entrepris pendant 14 ans à l'intérieur de cette entreprise-là. J'étais juste rendu à me dire, je pense qu'il faut, ça prend pour réussir, ça prend des ingrédients pour réussir à être vraiment un partenaire de choix et privilégié auprès des clients qui vont vouloir entreprendre leur transformation numérique. Ça prend des ingrédients. Et les ingrédients, je les retrouvais pas et j'avais le goût de bâtir une entreprise qui les aurait. Et je m'explique, tu sais, par exemple, chez Levio, dès le début, dès la fondation, on a décidé, nous autres, que ça serait des conseillers à faire IT, donc les domaines d'expertise des clients, que ce soit les secteurs d'assurance et services financiers, le volet gouvernemental, l'industriel, le transport, peu importe. Donc, ça prend des conseillers du côté affaires et ça prend des gens, des experts en technologie qui, main dans la main, travaillent ensemble à faire arriver le projet de transformation. Ça, c'est un des ingrédients que nous, on a injecté dans l'entreprise dès le départ. Un autre ingrédient intéressant, c'est Levio, ça veut dire « rendre plus léger ». Donc, on était, nous, dans un modèle où on voyait qu'il y avait des silos, hein, les gens d'affaires d'un côté, les gens de TI l'autre bord, des grandes méthodologies complexes avec il fallait suivre la recette pas à pas pour être capable d'arriver éventuellement à un résultat. Nous, on a décidé que la méthode, ça serait une approche très adaptée au contexte du projet de transformation du client, qui regrouperait des éléments de différents, mais qui créerait une recette vraiment gagnante dans le contexte du client, centrée sur la génération de valeur et le travail et la collaboration entre les équipes. Donc, c'est ce qui nous a permis de vraiment partir de façon, je dirais, distinctive sur le marché.
Et parlons-en de cette fondation. On va essayer de situer un petit peu l'audience aujourd'hui parce que les chiffres sont totalement phénoménaux. Fin 2013, début 2014, s'est fondé Levio. Et selon mes recherches, j'ai cru voir que pendant la première année d'existence, vous avez généré à peu près 200 000 $ de chiffre d'affaires. Et seulement 5 ans plus tard, donc on parle de 2019 ici, vous étiez rendu à 50 millions de revenus annuels. Question simple, M. Dion, mais qui risque d'en intéresser plus d'un. À quoi attribuez-vous une croissance aussi rapide en l'espace de 5 ans seulement?
Avoir des collègues extraordinaires. Moi, faut prendre le temps de le dire. J'ai été pendant ces 5 années-là en mandat à temps plein pour un client qui a décidé de nous donner notre première chance. Je pense que ça aussi, ça prend ça. Faut l'attribuer à le mérite à ceux qui acceptent de croire à la vision, au plan d'affaires qu'on amène. Donc, nous, c'est Desjardins Assurance Générale qui faisait l'acquisition des opérations canadiennes de State Farm. Un méga assureur de dommages aux États-Unis, le plus gros aux États-Unis, probablement le deuxième au monde, qui avait des opérations au Canada. Puis Desjardins Assurance Générale, eux autres, avaient décidé de faire cette transaction-là, puis de vraiment se donner les moyens de doubler au Canada. Donc, c'était vraiment stimulant d'avoir des Québécois qui achètent des opérations canadiennes d'Américains. Souvent, on est habitué d'entendre l'inverse, hein, d'avoir des Américains qui viennent acheter des entreprises au Québec. Fait que ça, c'était vraiment stimulant. Puis ça a été le client qui a décidé de croire dans le modèle qu'on voulait mettre l'avant, d'avoir une entreprise de Québec, du Québec, avec des concepts de génération de valeur au cœur de son approche. Puis des conseillers affaires TI. On avait décidé, nous, un autre élément qu'on a décidé de mettre en place parce qu'on est des ingrédients, puis l'attribution du succès, c'était de partager les risques avec nos clients. Donc, on a décidé de dire, nous, on vient pas juste vendre des heures, on vient pas écrire de la gazette, puis après ça, on va se sauver en cours de route. On arrive au moment de l'idée, hein, le programme de State Farm, c'était ça, vous êtes en train d'y penser, vous voulez le faire, on va mettre du skill in the game à vos côtés, on va amener des conseillers de Livio, on va être en partenariat avec vous autres, on va se rendre jusqu'à temps que vous ayez capturé les bénéfices de ça. Puis quand ça va être difficile en cours de route, là, ben on va être à côté de vous autres, puis on va travailler fort pour le faire arriver. Quand vous allez aller chercher la tasse ou le trophée sur le stage, parce qu'on a réussi, ben on va être fiers de vous applaudir parce que vous l'avez obtenu. Donc, c'est un peu comme ça que ça s'est passé.
Mais c'est fascinant. Puis, je serais curieux quand vous dites partager les risques. Est-ce que ça veut dire que, ultimement, dans le modèle d'affaires, vous dites, vous vendez pas juste des heures? Est-ce que vous aviez également si vous atteignez X, Y, Z indicateurs de performance, il y avait d'autres primes à la performance? Est-ce que vous avez innové, littéralement, dans la manière d'être rémunéré?
Ben, oui, définitivement. Dans le fond, il y a différentes façons de partager les risques. Ça a commencé au début, j'étais le seul conseiller. Fait que, dans le fond, les honoraires que je vais vous changer, je vais les mettre en avant une portion de ces honoraires-là qui vont être à risque. Mais au fur et à mesure qu'on avance et qu'on déploie des équipes, ben c'est du partage de risque sur des bouts de construction. Ça peut même être des prises en charge de livraison à taux fixe ou encore des partages de risque assez moins clairs avec des différents incitatifs à faire en sorte de le livrer sur le moins de budget possible. Puis, donc, c'est un peu ce qu'on a réussi à déployer. Honnêtement, ça a fait vraiment partie de notre succès. Fait qu'à votre question, comment ça s'est réalisé? Et je pense qu'on avait une bonne vision, on avait un concept qui était clair, tu sais, on voulait vraiment devenir des leaders en transformation des organisations avec des conseillers affaires TI, des gens qui arrivent au début, qui se rendent jusqu'à la fin, qui prennent des risques aux côtés du client, qui le font de façon très centrée sur la génération de valeur avec une approche particulière. Puis là, on a eu un modèle en place où il y a eu des collègues qui ont décidé de venir jouer dedans, d'accepter la vision, de venir jouer dedans, puis de prendre l'entreprise comme une locomotive pour s'éclater, puis avoir du plaisir, puis construire. Là, ben, ça a généré une croissance comme vous l'avez énoncé.
Puis on aurait pu croire que c'était la fin de votre croissance fulgurante 2019, mais au final, ce n'était que le début parce que de 2019 à 2021, vous avez continué à prendre agressivement des parts de marché en passant de 630 employés en 2019 à plus de 1600 au moment où on se parle, qu'on enregistre le podcast aujourd'hui. Je serais curieux de vous entendre, M. Dion, sur les phases de croissance. À quel point votre développement a dû être différent dans les 2 premières années comparativement peut-être aux dernières 5 années?
Ben oui, il y a eu des différences, mais ça me fait sourire parce que je me souviens encore au début, en état de vingtaine, puis j'expliquais aux gens, je dis, vous savez, je recrutais soit des personnes que je voulais amener chez nous, des collaborateurs ou des clients. Ils vont être bientôt 500 et je voulais juste avoir leur réaction, de leur expliquer comment est-ce qu'on ferait ça. Fait que ça a été toute une épopée de faire ça, de voir ça, mais c'était pas une destination pour nous autres d'être 500. Nous autres, on veut vraiment être un leader en transformation des organisations, bien sûr chez nous ici au Québec, mais aussi je dirais en Amérique du Nord, on veut être reconnu pour ça. Donc ça veut dire que le plan il était là dès le départ. On avait ce plan-là, il était clair. Et après ça, il s'agissait de l'exécuter. Donc, on l'a fait. Quand on arrivait après ça à ce palier-là, puis on a passé de 2019 à 2021, je vous dirais que, dans le fond, tout ce qu'il fallait faire, c'était continuer à l'exécuter, continuer dans la même veine. Et pour moi, plus gros, ben, c'est seulement l'addition de plusieurs petites choses. Donc faut le voir comme ça. Évidemment faut se donner l'infrastructure, faut se donner le moyen de supporter nos opérations. Nos opérations sont plus grandes. Donc faut le faire sans briser ce qui a été la génération de notre succès. Je dirais ça a été bien évident pour nous autres. Donc garder une très belle autonomie d'esprit de famille, très peu hiérarchisé, centré comme je disais tantôt sur la livraison pour nos clients. C'est la différence, la grosse différence, c'est, je vous dirais, là, c'est ça a été plus facile. Parce qu'on était connu, on avait une notoriété, on avait plus de moyens, on avait plus de capacités. Donc, c'est plus facile quand tu grandis que quand t'es petit. Et l'infrastructure, je termine là-dessus parce que c'est un élément qui est important. L'infrastructure qu'on a mis en place pour être capable de passer à l'autre étape, ben, c'est une infrastructure qu'il faut mettre en place juste au bon moment. Et ça sert à rien d'essayer de se mettre une infrastructure pour supporter 1600 personnes quand on est 300. Et on va juste consommer la profitabilité puis ce qui nous sert à financer notre croissance puis à exécuter notre mission. Donc, on se met en position de faiblesse et de vulnérabilité. Mais ces paliers-là dont vous parlez, ils existent. Il faut mettre en place les bonnes choses au bon moment puis comprendre que c'est juste l'addition de plusieurs choses, de plusieurs petites choses qui se regroupent. S'inscrire dans le plan qu'on avait au début.
Puis vous avez fait ça sans capital externe. Vous avez sensiblement autofinancé cette croissance-là. Est-ce que je me trompe?
Nous, ça a été pour nous autres très clair dès le départ que ce qu'on voulait, c'était générer une entreprise rentable. Et si on voulait faire de la croissance, il fallait que ce soit de la croissance rentable. Et ça, c'est pour le bénéfice de tout le monde, incluant nos clients. Si on veut être capable de livrer des services de qualité et être vraiment le partenaire de choix pour les aider à réussir, si on n'est pas capable d'avoir un modèle économique qui nous permet de générer notre propre carburant, si on veut, c'est un problème. Alors ça a été clairement mis comme une assise dans l'entreprise dès le départ. Et puis après ça, ben, il s'agit de savoir ce qu'on fait avec. Hein. Nous autres, on avait décidé qu'on faisait pas un lifestyle company, puis on décidait qu'on réinvestissait, qu'on voulait bâtir. Donc, on a réinvesti, c'était... le fruit de nos efforts dans le développement, puis c'est comme ça qu'on s'est gouverné jusqu'à présent et qu'on va continuer à se gouverner.
Ben c'est tout à votre honneur parce que grandir aussi vite sans capital externe, utiliser de la profitabilité pour accélérer la croissance, c'est un modèle qui est peut-être facile à dire, mais excessivement difficile à faire. Donc, c'est tout à votre honneur ce que vous avez été capable de faire. Et je continuerai un petit peu parce que, bien entendu, il y a des phases de croissance. À un certain point, à un moment donné, on peut être confronté peut-être à de la consolidation de marché, peut-être même à de la pénurie de main-d'œuvre. Et je serais curieux de vous entendre là-dessus parce que j'ai été capable de voir que dans les derniers mois seulement, vous avez fait deux acquisitions. Donc, pour les nommer aux gens qui nous écoutent aujourd'hui, vous avez fait l'acquisition de Landry Associés pendant l'été 2021, ainsi que Vounix en septembre, donc à peu près un mois et demi de ça maintenant. Ces acquisitions-là ont été annoncées à ces moments-là. Peut-être que les discussions avaient été lancées préalablement, mais je serais curieux, est-ce que cette stratégie de croissance maintenant par acquisition est le moteur d'accélération que Levio va prendre pour les prochaines années?
C'est définitivement un moteur qu'on va utiliser. Ça ne sera pas le seul. Je dirais la croissance organique qu'on appelle par développement de nos talents puis par prospection va demeurer très important chez nous. Mais c'est sûr que la croissance par acquisition va s'accélérer. On a fait nos classes là-dedans. Je veux dire, on est rendu à quand même 7 de fait à date. Je vous dirais les 5 dernières, vous avez nommé 2, mais il y en a eu 2 autres de fait en 2020, des collègues de chez LogiMethod, des collègues de ERP Connex qui se sont joints à l'équipe. Et en 2019, je nommerais les collègues de chez Media Solutions. Oui, c'est un vecteur qu'on va utiliser, mais toujours de façon très structurée et cohérente avec le plan. Donc, nous, le plan, il est clair, hein, c'est on va ajouter les gammes de talents ou les lignes d'affaires qu'on a besoin pour être capable de réaliser notre mandat de transformation chez nos clients, s'assurer qu'on est capable de les accompagner du début à la fin, de prendre des risques à deux côtés. Donc, ça nous prend pour faire ça. La gamme de services, pour être capable de garantir le résultat, ça nous prend la gamme de services et de lignes d'affaires sur l'ensemble du spectre. Puis si on veut générer la valeur, ben, faut aller aussi dans les coins, tu sais, dans les zones un peu plus innovante, comme je pense à l'intelligence artificielle. Donc, l'acquisition de Melia Solutions en 2019 s'inscrivait dans ce vecteur-là. Donc, un chercheur émérite de l'Université de Sherbrooke qui avait parti son entreprise, avait opéré ça pendant une dizaine d'années, des contrats avec la Défense nationale, avec l'Agence spatiale canadienne, le bras robot, le moteur, le cerveau dans le bras robot canadien, ils sont en plein cœur de tout ça. Et il y avait des experts là-dedans fantastiques. Puis nous, on s'est dit, ben regarde, on va les joindre au groupe, on va amener notre capacité de gens qui veulent se développer là-dedans, qui ont étudié là-dedans, qui ont déjà un bagage dans ça. Et on va amener aussi tout le volet intelligence d'affaires autour de ça, puis on va créer un groupe de 100 personnes avec lequel on va construire par la suite, mais toujours dans un esprit de rentabilité, pas juste des use cases, il faut que ça soit rentable pour le client, puis on ira de plus en plus profond dans la recherche au fur et à mesure qu'on va avancer, mais ça prend des cas concrets où on livre de la valeur et que ça vaut quelque chose pour le client. Alors, c'est là-dedans qu'on travaille, puis les deux dernières que vous avez nommées, cybersécurité, c'est oui, définitivement. Le ERP aussi, là, je méthode des experts en intégration, Vunix, des experts en génie logiciel, puis en plateforme d'assurance, CIS, puis Guidewire. Puis c'est pas fini, on a plusieurs autres. Il nous manque plusieurs choses dans notre coffre à outils pour être capable d'exercer parfaitement notre mission. Fait qu'on continue à développer et à rechercher, c'est clair.
Wow. Puis on va parler un petit peu de votre culture organisationnelle qui est fantastique dans quelques secondes, mais j'aimerais vous poser une question avant, Monsieur Dion. Vous êtes dans le service, mais avec tous les cerveaux, tous les gens que vous avez à l'intérieur de votre entreprise, est-ce que ça vous est passé par la tête de peut-être intégrer, d'aller dans le produit?
Écoutez, on en a des produits chez Levio, on en a les produits au service de nos clients. T'sais, on a des capital intellectuels qu'on utilise dans le cadre. D'ailleurs, je vous parlais de la plateforme pour le bras robot canadien. On a une plateforme très, très évoluée qui est utilisée par les équipes de qui construisent le bras robot. Et donc, on en a aussi des plateformes pour optimiser le marketing. Donc, une entreprise qui investit des millions de dollars en marketing de tout azimut, puis veut voir, dans le fond, comment optimiser ses dépenses marketing pour être sûr d'en chercher le maximum de bénéfices. On a un logiciel pour faire ça. Il est déployé chez un client. Il va très bien. Donc, je vous dirais qu'on en a un dans le domaine des services financiers, la gestion des demandes et tout. On en a quelques-uns, mais nous, notre mission, c'est pas de construire une plateforme, de lever du capital, puis à un moment donné, un jour, on est pas dans ce domaine-là. Il y a des gens qui font très bien là-dedans, puis je respecte ça. Nous, on est plus dans, on construit du capital intellectuel pour être capable d'exécuter notre mission, d'aider nos clients à livrer. Évidemment, ça devient des générateurs de valeur, ça devient des différenciateurs, il y a du revenu récurrent qui vient avec ça quand on amène ça chez le client, mais c'est dans un esprit d'atteinte que je vous mentionnais au début.
Intéressant. Je reviendrai. Culture d'entreprise. Donc, vous avez adopté très tôt un modèle où vos employés ont sensiblement une grande autonomie dans leur travail. Pouvez-vous expliquer à l'audience aujourd'hui comment le modèle organisationnel fonctionne chez Levio?
Les gens qui arrivent, ça leur prend minimum quelques mois avant de bien comprendre comment ça fonctionne. Quand tu arrives chez Levio, il n'y a pas d'organigramme. Donc, c'est la première chose. Parce que, dans le fond, l'organigramme vient briser ce qu'on essaye de mettre en place avec notre culture, notre modèle d'entreprise. Donc, tantôt, je l'ai mentionné, hein, on veut réussir des projets pour les clients. Je vais l'avoir dit au moins 10 fois depuis le début. Pour réussir à faire ça, ça prend des gens qui ont le goût de partager les mêmes valeurs, des valeurs d'engagement, de sens des responsabilités, de rigueur, de qualité dans leur travail. Ça prend des gens aussi qui décident de travailler en équipe puis de faire passer avant leur résultat personnel ou leur bien personnel, le bien de l'équipe. Donc, des gens qui n'ont pas peur de demander de l'aide, des gens qui sont assez confiants pour reconnaître qu'ils ont leur valeur, puis quand ils sont pas sûrs de leur coût, de demander à quelqu'un de venir les aider. Donc, ça, c'est la base de notre culture. Par-dessus ça, le modèle organisationnel, ce qu'il veut, c'est favoriser des gens qui se développent dans cette zone-là, puis qui développent leur confiance et leur capacité. Donc, c'est un modèle basé sur des rôles matriciels, très peu hiérarchisés. C'est une place où tu n'auras pas vraiment de promotion ou de démotion. Tu sais, dans le fond, tu joues un rôle. Tous les rôles sont importants. Celui que tu décides de jouer cette année sera peut-être différent de celui que tu vas jouer l'an prochain. Si tu joues un rôle de responsable d'une unité d'affaires, puis après ça, tu joues un rôle de responsable d'un compte, ben t'as pas eu de démotion, t'as juste décidé de jouer un rôle différent. T'es responsable d'une ligne d'affaires, c'est parfait aussi, c'est aussi important. Et les jeunes là-dedans, les personnes qui arrivent, ben faut qu'ils trouvent leur place. Donc, qu'est-ce que t'as le goût de faire? Qu'est-ce que t'as le goût de leader? il y a beaucoup de co-responsables. Dans notre modèle organisationnel, c'est beaucoup du co-leadership. Donc, je mets souvent deux personnes complémentaires où les gens se trouvent eux-mêmes, la personne avec qui ils vont co-leader un groupe ou une initiative ou une unité d'affaires ou une ligne d'affaires. Et à partir de là, ben, ça devient du partage en continu du développement professionnel. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Maintenant, de qui relève, de qui relève, comment ça fonctionne pour qu'on se structure, ben, c'est dans le modèle, ben, il y a des comités qui regroupent ça, l'information, puis il y a une chaîne d'imputabilité qui s'installe en fonction du rôle que les gens ont décidé de jouer dans l'année. Mais à partir du moment où l'année d'après, ils changent de rôle, ben, la chaîne d'imputabilité change. Tout le monde vit bien avec ça parce que dans le fond, c'est des gens qui ont assez confiance en eux et qui comprennent que notre première mission, nous, c'est d'être chez le client, à livrer des résultats à nos clients, d'aller travailler à faire arriver leur transformation numérique. Puis après ça, ben, au bureau, pour faire grandir notre entreprise puis jouer un rôle de développement, ben, ça devient selon notre disponibilité, selon notre contexte familial, selon nos goûts. Ça, ben, c'est très bien vécu, très, très bien vécu dans l'entreprise.
Puis je pense que même, on peut, si on est entrepreneur ou même intrapreneur, bien s'intégrer chez Levio. Je serais curieux de vous entendre là-dessus. J'ai l'impression que vous avez bâti quelque chose. Ou est-ce qu'il y a beaucoup, il peut y avoir beaucoup de repreneuriat à l'intérieur de cette organisation-là?
Mais c'est ce qu'on souhaite. C'est ce qu'on souhaite. Puis c'est ce que jour après jour, j'essaie de construire. Dans le fond, moi, favoriser l'entrepreneurship, c'est pour moi hyper important. Moi, je crois à ça. C'est ce que j'ai vécu à une certaine époque ailleurs. Mais moi, je veux l'industrialiser à grande échelle. Je veux que ça soit permis à grande échelle et pas seulement que dans une petite zone. Donc, ça veut dire qu'il faut s'appuyer sur les humains plutôt que juste sur des processus. Il faut faire confiance aux humains, que les humains vont avoir la capacité de reconnaître le talent, reconnaître leurs faiblesses, de combler leurs faiblesses avec des collègues. Et oui, l'entrepreneurship a une grande place. Donc, quelqu'un qui arrive chez nous, c'est important, c'est dans le fond, prends un rôle, prends une responsabilité dans laquelle tu vas avoir du plaisir. Assure-toi d'avoir des défis. Assure-toi de construire ta prochaine étape. Si tu as le goût de prendre quelque chose en main, de développer, de bâtir, ben regarde, il n'y a aucun problème, on va te laisser le faire. Tu vas prendre le leadership, on va tout t'appuyer, travailler pour toi. Tu sais, moi, j'ai des collègues qui me disent, François, ça a été mon meilleur employé. Et puis c'est vrai, parce que dans le fond, quand c'est pas moi qui lead une initiative, c'est quelqu'un d'autre, ben, qui a besoin de mon aide. Ça va me faire plaisir de me joindre à son équipe de travail puis de donner mon input. Puis ben, après ça, ben, il y a l'actionnariat de la compagnie, parce que dans le fond, les gens qui construisent cette entreprise-là puis qui décident d'y mettre de leur cœur là-dedans puis de le prendre en main, ben, au fur et à mesure qu'ils ont du succès puis qu'ils bâtissent, nous, on a décidé d'aligner les intérêts et de partager avec ces gens-là. Donc, au début, j'étais le seul actionnaire de l'entreprise. Puis aujourd'hui, on est rendu 110 et ça sera pas fini. On va continuer à grossir le nombre d'actionnaires. C'est prévu de le faire cette année. À chaque année, d'ailleurs, on rentre des nouveaux. Puis on est très fiers de ça.
Puis comment ça fonctionne? Vous vendez des actions? C'est relié peut-être à des bonus qui vont se transformer en une part dans l'entreprise? Je serais curieux si vous pouviez nous dire un petit peu comment tout ça s'est mis en marche.
C'est un mélange de tout ça. Je vous dirais qu'essentiellement, il y a un marché interne. Il y a un marché interne annuellement. Puis les gens qui ont le goût d'embarquer, ben, ils signifient leur intérêt. Puis nous, on décide les gens qui vont... Puis évidemment, c'est pas illimité tout ça. Il y a une capacité limitée. Donc, à chaque année, c'est en fonction de ceux qui ont livré les résultats puis continuer à développer avec nous.
Fantastique. Puis, dernière question que je vous poserai, Monsieur Dion, avant de passer à des petites questions davantage personnelles. Là, vous êtes rendu à 1600 employés. Vous avez fondé l'organisation il y a un petit peu plus de 7 ans de ça maintenant. C'est quoi l'avenir pour Levio dans les prochaines années?
Écoutez, on n'est pas à destination encore. Fait que on continue. On a un plan 2025 qui est très clair. Nous, on veut en 2025 être près de 4000 personnes. Donc, ça veut dire qu'on continue à développer. On exécute le plan de match, qui est pas différent de celui qu'on fait depuis 2013-2014. On cherche actuellement 500 personnes activement. On veut des gens dans tous les domaines. On veut des gens techniques, des gens affaires, des développeurs, des ingénieurs de systèmes, des spécialistes de produits, des analystes architectes, affaires TI, des gens en Scrum, directeurs de programme, directeurs de projet, cybersécurité, du monde en BI. Écoutez, c'est 360 degrés. On cherche du monde. Les équipes sont à pied d'œuvre pour les recruter. On a des clients qui veulent vraiment nous avoir à leur côté pour développer leur transformation. Ils nous font confiance. Nous, on cherche les personnes qui ont le goût de venir jouer dans un modèle comme je vous ai expliqué tantôt. On a gagné en 2020, on a gagné l'employeur grande entreprise de l'année au Mercurial. On était fiers de ça. Puis on a eu le privilège d'avoir le prix de la soirée de grande entreprise de l'année. Mais celui d'employeur de l'année, j'en suis vraiment fier. Donc, des conditions flexibles où on met les personnes au cœur de nos préoccupations. Puis on leur donne la chance de se développer. Beaucoup de jumelage plus seniors avec plus jeunes. Donc, les plus jeunes qui ont la fougue et le goût d'entreprendre, mais qui ont besoin d'avoir un peu l'éclairage et l'expérience des plus vieux, c'est là. Donc, tout est en place. Puis on pense qu'on va se rendre, on va se rendre à notre destination 2025, qui sera probablement pas la cible. Ça va être un palier.
Wow. Puis, bon, c'est beau cette croissance-là, mais comment vous faites pour bien aligner le François Dion au niveau personnel pour être certain qu'il puisse être performant pendant ses heures de travail? Est-ce que vous avez une routine avant le travail, pendant le travail, après le travail?
Oui, honnêtement, on n'a pas beaucoup de temps d'avoir de routine. Puis on est assez occupé dans notre vie personnelle aussi. Nous, on aime ça faire de la moto, on aime le golf, on aime les sports nautiques. J'ai eu le temps de prendre des cours de voile à travers ça. Fait que, puis là, ben, la pêche, puis le ski, puis on n'a pas même le temps d'avoir de routine. Il me semble que ça change tout le temps. On manque de temps pour faire tout ce qu'on veut faire, mais on se le permet. T'sais, honnêtement, ça, c'est un élément important parce que, vous l'avez dit tantôt, j'ai été en mandat pendant plusieurs années. J'en fais encore du mandat d'ailleurs. Donc, j'ai des collègues exceptionnels qui prennent des bouts de l'entreprise puis qui la roulent. Puis qui, moi, je danse sous mes deux oreilles. Là. C'est une affaire d'équipe, puis c'est comme ça qu'il faut que ça soit. Puis si on veut être performant, il faut prendre le temps d'avoir du temps en famille, puis d'avoir un équilibre qui se tient. Là. Fait que mais c'est pas de la routine, je peux vous le dire. On a trop de choses qu'on aime pour que ce soit de la routine.
Wow. Puis, dernière question que je poserais à M. Dion. Si vous aviez la chance de retourner en 2013 et de parler à François Dion, le fondateur de l'organisation L'École, au tout début du lancement de l'organisation, c'est quoi que vous lui diriez? C'est quoi que vous lui diriez peut-être de choses à faire de manière différente ou de suivre la même direction qui a été prise?
On pourrait dire... On pourrait commencer plus vite. Hein? Je pourrais commencer l'aventure plus tôt parce que, dans le fond, je suis encore bien jeune. Moi, je viens d'avoir 50 ans. Jeune grand-père, d'ailleurs. J'ai une petite fille d'un mois, et demi. Fait que ça c'est un de mes plus beaux loisirs dans ce temps-ci. Fait que ça, on a tassé d'autres choses pour mettre ça en priorité. Mais, tu sais, on a tellement de plaisir dans cette entreprise-là que... honnêtement, j'aimerais mieux avoir 4 ans. Beaucoup de monde qui me disent ça, François, j'aimerais ça être plus jeune, j'aimerais ça avoir 40 ans, commencer plus tôt pour avoir plus de temps à s'amuser. Mais blague à part, je trouve que je ne changerais pas grand-chose. On a fait beaucoup d'erreurs. Il faut pas avoir peur de faire des erreurs. Là. Je pense qu'on apprend nos erreurs, c'est une façon d'apprendre. L'important, c'est de faire plus de bons coups que d'erreurs, puis d'apprendre de ces erreurs. C'est les deux éléments importants. Fait que non, je les ai faites parce que puis ont tous servi à quelque chose. Fait que je changerais pas grand-chose.
Ben, je pense que les chiffres et les résultats parlent pour vous-même. Donc, au final, avoir une croissance de cette vitesse-là en 7 ans seulement, c'est tout à fait exceptionnel. Je tiens à le redire, félicitations. C'est tout un honneur de voir que des entreprises québécoises qui ont cette ambition-là d'aller vite, de réinvestir dans leur croissance continuellement, et ils le font en se finançant eux-mêmes. Tout à fait exceptionnel. Je vous refélicite là-dessus. Monsieur Dion, avant de vous laisser filer, est-ce que vous auriez peut-être quelque chose à dire à notre audience aujourd'hui? Vous parliez de poste tout à l'heure, peut-être de clientèle que vous recherchez. Je vous laisserai la parole.
Ben oui, mais juste peut-être avant de répondre à ça, juste peut-être pour faire un clin d'œil, on a quand même aujourd'hui des partenaires financiers, je dirais, en dette senior qui nous accompagnent, qui sont avec nous. Là. Fait que je veux lui faire un clin d'œil, là, tu sais, que ce soit Banque Nationale, Desjardins. Évidemment, Desjardins, qui était notre premier client, est toujours très présent dans l'entreprise. C'est notre banquier. Fait que là, on est chanceux d'avoir ces personnes-là. Donc, oui, on a investi notre capital, mais aujourd'hui, on est rendu où on a besoin de ces vecteurs-là. Je vous dirais, le message pour moi, il est clair. Tu sais, c'est nous, on est une entreprise du Québec. On trouve qu'on a du bon talent au Québec. Je l'ai vécu quand on a fait State Farm. Hein, ils ont été impressionnés de voir comment les Québécois aux États-Unis, ils ont été impressionnés de voir comment la gang de Lévis, puis du Québec, comment qu'ils géraient ça, un programme d'intégration de 270 millions, puis comment qu'ils faisaient pour livrer aux dates avec tous les bénéfices, puis respecter les choses. Fait qu'on a fait une super job, puis ça, c'est du monde de chez nous qui se fait dire ça par des plus gros assureurs de dommages aux États-Unis. Il y a 10 000 employés en TI chez State Farm. Fait que moi, j'ai la conviction profonde qu'on peut créer une entreprise québécoise avec le nouveau genre, avec l'approche qu'on a aujourd'hui, qui va se distinguer dans le contexte où le marché est en train d'exploser en transformation des organisations. Plusieurs exemples se passent. Donc, le message de fin, c'est s'il y a des gens que ça leur tente de joindre l'équipe, on doit venir entreprendre, venir jouer des rôles d'ingénieur, de chargé de projet, de directeur de développement des affaires, on a besoin de tous les talents pour être capable de builder ce champion québécois-là, puis ça va nous faire plaisir de vous accueillir.
Merveilleux, on mettra un lien dans les notes de l'épisode pour postuler chez vous. Monsieur Dion, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui, très inspirant et très fascinant comme conversation. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance. On continue à recevoir les grandes pointures des entreprises technologiques québécoises. Après Luc Filiatreault et Louis Têtu, j'ai été très heureux que M. Dion se joigne à la discussion aujourd'hui. Également, continuez à m'ajouter sur LinkedIn. Comme je vous le dis à chaque semaine, j'adore discuter avec vous et plus souvent qu'autrement, vous me donnez de super idées d'invités pour le podcast. Sur ce, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.